Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et c'est au Burkina Faso que nous allons dans un instant, un pays comme son voisin le Mali, mangé par des djihadistes. Et le Burkina qui ne sait plus comment faire face, il doit s'en remettre parfois à des milices citoyennes. C'est ce que nous racontera Claude Guibal dans l'escale reportage sous les radars et Amélie Perrier. Vous l'avez entendu, au Kenya notamment et au Ghana, 18h50, l'Europe. Tu l'aimes ou tu la quittes, signé Pierre Benazet depuis Bruxelles ce soir. Pierre qui regarde comment se constituent les groupes au Parlement, notamment l'alliance entre Marine Le Pen et Matteo Salvini. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four, près du détroit d'Ormuz, où se concentrent toutes les inquiétudes depuis ce matin. Avant cela, c'est au Brésil que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Après la réforme de l'éducation donc qui a mis les facs dans la rue, la réforme des retraites et celle qui secoue les Brésiliens, grève générale prévue demain, qui d'ailleurs est bien plus large que ça, cette fameuse grève générale. Et c'est loin d'être le seul caillou dans la chaussure de Jair Bolsonaro, c'est moins qu'on puisse dire, puisque la justice le rattrape aussi, en tout cas l'impartialité des juges qui ont emprisonné l'ex-président Lula notamment est mise en question. Pas les juges d'ailleurs, mais le juge Sergio Moro, qui rappelons-le, est aujourd'hui ministre de la Justice. Bonsoir Stéphane Witowski.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du Brésil, président du Conseil stratégique de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. L'ancien juge Moro, donc aujourd'hui ministre de la Justice, effectivement, ses accointances avec la droite brésilienne, on ne les découvre pas, elles étaient claires depuis longtemps. Est-ce que cette affaire révélée par le site The Intercept, quand même, perturbe réellement le gouvernement Bolsonaro ou pas?
Oui, ça porte atteinte évidemment à l'intégrité du gouvernement Bolsonaro et d'une manière générale, tout cela a été quand même un peu cousu de fil blanc depuis longtemps. En réalité, les initiatives du juge Moro étaient en réalité très liées à son propre passé politique vis-à-vis des milieux conservateurs brésiliens, mais aussi avec des intérêts nord-américains évidents.
Mais donc ça, on savait qu'il voulait absolument descendre Lula, donc on savait qu'il pouvait y avoir un problème dans le procès qui a eu lieu, dans l'emprisonnement de l'ex-président. Tout ça était clair depuis le début.
Il suffisait simplement de lire l'acte d'accusation. Il n'y a absolument aucune preuve concrète contre Lula. En réalité, c'était une initiative, une démarche pour empêcher Lula de se présenter à la présidence de la République et surtout de retarder aussi le plus possible que son candidat, son dauphin possible à date se présente, ce qui a été aussi le cas et ça a été retardé. Et en réalité, il a été lancé dans la piste beaucoup trop tardivement et avec d'autres contextes et d'autres éléments, mais en réalité le résultat est celui-là.
Et
c'était
donc,
ça le but recherché.
On savait déjà tout ça simplement. Donc ce qu'apporte le site Intercept aujourd'hui, c'est simplement la preuve par neuf. En gros, c'est ça le vrai neuf. C'est pas plus que ça.
Il y aura d'autres preuves évidemment.
Visiblement, oui. Évidemment, il a prévenu d'ailleurs qu'il le ferait étape par étape.
D'autres preuves qui effectivement révéleront que derrière cette élection présidentielle qui est en réalité en partie truquée, puisque le jeu politique démocratique n'a pas été respecté.
Est-ce que c'est pas seulement Lula, mais c'est de toute façon toute l'opération lavage à tas qu'il faut remettre sur la table, qu'il faudrait remettre sur la table?
En grande partie. Alors, il y a eu une partie, si vous voulez, d'opération compte tenu aussi de la procédure judiciaire qui permet aussi un certain nombre d'aveux, qui permet d'accélérer les choses. Mais il a voulu un peu s'inspirer de l'exemple italien, mais quand Lula lui demandait des preuves concrètes, Moro répondait « mais j'ai des éléments, regardez la presse ». Donc il s'est appuyé sur la presse. Et la presse, en grande partie, a été instrumentalisée dans l'affaire, qui a lancé des attaques très graves, fausses, contre Lula et contre le PT.
Mais est-ce que ça veut dire, le Parti des Travailleurs, est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle audience pour la libération de Lula, un recours en partialité, en fait, très exactement, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce sera le 25 juin prochain.
Exactement. Les avocats ont demandé le 25 juin, effectivement, une nouvelle demande de libération, qui avait déjà été demandée par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, par une pétition de presse que 300 juristes internationaux il y a déjà quelques mois, ancien président et chef d'état de gouvernement de l'Union européenne, dont François Hollande, qui avait déjà demandé sa libération, mais qui était resté sans suite.
Là, au vu de ces éléments nouveaux, est-ce qu'il est possible que Lula sorte de prison le 25 juin, sincèrement? Qu'est-ce qui ferait au Brésil que la roue tourne et qu'il sorte de prison?
Si normalement la procédure judiciaire doit être respectée, il a de quelques chances de sortir, mais dans le contexte politique politique où la situation économique, politique, sociale du pays est tellement dégradée, l'image aussi très ternie du président Bolsonaro, Lula en liberté constitue une sorte de risque grand pour la popularité, la stabilité, je dirais, du gouvernement actuel.
Qui a été élu sur un message de probité, il faut rappeler ça quand même, on va vous débarrasser de ces problèmes de corruption, fermez les guillemets. C'est comme ça qu'il a été élu, Bolsonaro, à ce moment-là.
Oui, sauf que les affaires de corruption concernent directement certains de ses ministres, que sa propre famille, ses propres enfants, et que la sécurité qui avait été promise a redoublé avec l'autorisation, libéralisation des ports d'armes. On a vu encore fin mai, dans les prisons, surpopulation carcérale. Il y a eu quand même 55 prisonniers dans 4 prisons de Manaus qui ont été tués dans des conditions terribles. Gangs, insécurité globale et récession économique qui pointe, puisqu'il y a une récession économique qui a été frappée début premier semestre 2019.
On va y venir effectivement, y compris la situation politique, la situation économique, pardon, au Brésil aujourd'hui. Je voudrais vous faire écouter un des leaders de l'opposition, c'est le leader des Sans Toits. Voici ce qu'il dit au sujet de ce qui se passe là en ce moment même au Brésil.
Ce qui s'est passé est très grave et ne peut pas être relativisé. Quand le juge qui devrait juger de manière impartiale devient collaborateur de l'accusation dans le procès, on ne parle plus d'un procès judiciaire mais d'un lynchage. Et c'est ce qui s'est passé, une collaboration explicite du juge Sergio Moro avec les procureurs du Lavajato.
Do juiz Sérgio Moro com a força-tarefa da Lava Jato.
Sergio Moro n'est plus en mesure, ni politiquement, ni moralement, de continuer comme ministre de la Justice. Il doit partir immédiatement. Le procureur Dallagnol et les autres qui sont dans ce groupe Telegram sont tous suspects et ne peuvent plus non plus continuer les enquêtes. Le Conseil national supérieur de justice va les enquêter et ils doivent rester loin des enquêtes jusqu'à ce qu'on sache la vérité.
Voilà, Global Anvinia qui a recueilli ce son pour nous. Tout le monde est mouillé. Il faut faire la vérité sur tout ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intrigue quand même, c'est qu'on a l'impression, depuis que tout cela est sorti, que l'opposition à Bolsonaro n'est pas plus structurée, pas mieux mise en avant qu'elle ne l'était avant, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que c'est l'occasion pour la gauche brésilienne de se regrouper ou pas encore?
Le Parti des Travailleurs reste encore la principale force d'opposition, mais la constitution brésilienne est organisée de telle façon qu'il y a une sorte de fragmentation de la vie politique, un éclatement par une multiplication de partis qui s'illustre d'ailleurs au Congrès et qui bloque en effet les réformes, en particulier on l'a vu actuellement pour la réforme des retraites. On le voit aussi par une partie de la classe politique qui est très médiocre et très peu structurée et qui change de parti, dont les dirigeants changent de parti régulièrement. Mais en revanche, on voit l'émergence de forces d'opposition de la société civile, que ce soit les milieux intellectuels et universitaires. Il y a eu des coupes claires dans le budget éducation nationale supérieure, des grèves des étudiants en particulier en février. Et puis, toutes les minorités agissantes, en particulier, les LGBT, les mouvements des indigènes, tout ce qui se passe en Amazonie, et tous ces phénomènes, cette prise de conscience aussi des réseaux sociaux.
C'est vrai, une société civile, apparemment, Stéphane Witowski, qui est très active, mais politiquement, comment ça se traduit, ça? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une opposition bloc, une capacité d'opposition bloc face à Bolsonaro? Parce qu'au fond, il a les mains assez libres. Lui-même a des soucis dans le Congrès, d'ailleurs, parce que ses coalitions sont très volatiles. Il a 54 députés sur l'ensemble. C'est finalement pas tant que ça. Et c'est pas si simple pour lui non plus. Comment se fait-il qu'il ne peut pas y avoir une opposition qui fasse bloc?
Pour une raison très simple, c'est que le principal chef de l'opposition, le plus charismatique, qui a réussi très bien, il est en prison. C'est tout.
Il n'a pas été remplacé.
Il reste dans le cœur de beaucoup de Brésiliens comme une figure qui a quand même redonné au Brésil une place sur la scène internationale absolument inégalable, avec un bilan on pourrait décliner sur tous les plans qui a quand même totalement changé l'image du Brésil. Et donc les Brésiliens restent en grande partie nostalgiques de sa figure, malgré des problèmes qui ont été rencontrés, malgré des réformes qui n'ont pas été faites, en particulier la réforme agraire, peut-être la réforme politique qui aurait dû être faite, car c'est ça aussi le problème, mais il reste encore une figure très populaire dans le pays.
Si cette grève générale de demain, qui part sur les retraites, qui sera probablement élargie, fonctionne, met beaucoup de monde dans la rue, encore une fois, est-ce que ça change quelque chose ? Je vous pose la question parce que, vous le disiez, les universitaires, les étudiants, les groupes LGBT sont déjà descendus dans la rue et politiquement, il ne s'est pas passé grand-chose. Qu'est-ce qui se passe demain, après cette grève générale ? Est-ce que ça peut être le tournant de quelque chose ou pas encore ?
Je pense que ça peut être un élément parmi d'autres, mais vous savez, dans le passé, il y a eu déjà des grandes manifestations dans le pays. Déjà, même sous Dilma Rousseff, il y avait des grands mouvements populaires font un peu penser à ce qui s'était passé aussi en France. Alors, mais toute chose égale par ailleurs avec ce qu'on appelait les Gilets jaunes. Mais à l'époque, il y avait déjà beaucoup de revendications sous Dilma Rousseff contre justement les grands travaux qui avaient été entrepris, contre la classe politique, contre elle. Ouais. Et ces mouvements qui prennent une certaine ampleur peuvent éventuellement déstabiliser à terme, mais pas tout de suite, parce que c'est un pays, la société civile est assez autonome, mais il n'y a pas véritablement, je dirais, de mouvement, d'organisation politique classique qu'on peut voir dans d'autres pays où ça pourrait être en effet un moyen de renverser le régime. Mais c'est probablement, ça prendra un peu plus de temps.
Quels sont les soutiens qui restent ? Parce qu'il lui reste des soutiens à Bolsonaro quand même, visiblement solides. Quels sont les soutiens qui lui restent et qu'il a lâché déjà ?
Alors, une partie d'ailleurs de ses soutiens commence à le lâcher petit à petit, compte tenu des contradictions de sa politique économique. Je pense à certains milieux de l'agro-industrie, qui par exemple veulent continuer de travailler ou exporter avec des pays arabes, ou la Chine, qu'il avait qualifié de pays communiste avec lequel il ne souhaitait pas de relations. Alors le vice-président Morão est allé à Pékin il y a quelques jours pour essayer de rectifier le tir. Et il y a malgré tout, dans ce couple exécutif, il y a la personnalité de Bolsonaro qui pose un peu problème parce qu'il n'a visiblement pas l'équation personnelle ni les qualités requises. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. Au terme de ses 100 jours, dans une interview, il a publiquement reconnu « Je ne suis pas né pour être président, je suis né pour être militaire ». Et donc, il l'a reconnu qu'il n'avait pas la stature nécessaire pour être chef d'État.
Je ne sais pas s'il faut être étonné ou effrayé de cette phrase, pour diriger
la 9e économique mondiale. Mais il l'a reconnu. Et à l'évidence, ces contradictions entre une partie de l'armée aussi qu'il avait soutenue, mais une partie qui reste quand même très nationaliste et qui souhaite que les grandes entreprises publiques brésiliennes restent dans le giron de l'État, et tandis que son ministre de l'économie et des finances, hyper libéral, favorable au libre-échangisme, est extrêmement favorable à toutes ces privatisations, souhaite en effet pousser. Donc il y a des contradictions économiques et en termes d'image sur la scène internationale qui est absolument dramatique. L'image que Bolsonaro a donnée à Davos a été désastreuse.
Très vite d'ailleurs.
Très rapidement. Ensuite, évidemment, il y a une vieille tradition diplomatique de l'Itamaraty, de la diplomatie brésilienne qui est remarquable, mais qui est représentée par son ministre, qui n'est absolument pas non plus à la hauteur, et qui joue contre les intérêts du Brésil lui-même, qui va même contre cette espèce d'alliance avec les États-Unis de Trump, qui est totalement contraire à la vieille tradition brésilienne.
Alors justement, on va y venir un tout petit peu à Trump. Avant cela, Monsieur Witowski, on a l'impression, mais finalement comme Trump, qui navigue à vue, en fait, Bolsonaro, à grands coups de gueule, effectivement, d'ailleurs comme le fait son voisin d'en face, si je puis dire, Donald Trump, est-ce que le chaos, c'est aussi une forme de stratégie politique, au fond, dans un politicien comme lui ? Chez un politicien comme lui ?
Je crois qu'il n'a pas une vraie vision. D'ailleurs, c'est pas un politicien traditionnel. Il a été élu député de Rio un peu par défaut, parce qu'il a été, rappelons-le, quand il dit « je suis né pour être militaire », mais il a été viré de l'armée, parce qu'il n'avait pas les qualités requises pour faire une belle carrière militaire. Et malgré tout...
Parce que comme Trump, il commence à y avoir des papiers, y compris sur son état intellectuel, etc. Mais c'est aussi des choses qui on a l'impression que ça rassure en fait la gauche de pouvoir mettre en avant des arguments de ce genre-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres arguments à mettre en avant au fond pour lutter contre Jair Bolsonaro en fait ?
C'est-à-dire, il a une personnalité quand même un peu... Donc,
Un peu borderline.
Oui, parce que effectivement, multiplication de provocations sur les réseaux sociaux, maladresse, déclaration à l'emporte-pièce sur toutes les catégories, et puis des erreurs de comportement. Alors, il essaye un petit peu de se caler sur la ligne de Trump, mais il n'a pas l'expérience de politicien. Et quand il a été député de Rio, il n'a absolument rien fait. Il y a eu seulement deux initiatives dans tous ses mandats et encore député de Rio. Sa seule, entre guillemets, fait d'armes, c'est lorsqu'il y a eu la destitution d'Dilma Rousseff, il s'est illustré en vantant le tortionnaire de d'Dilma Rousseff. Et c'est à ce moment-là que le scandale a éclaté. Et comme on a eu des espèces de feux de projecteurs sur lui, et les gens ont commencé à s'intéresser. Et comme il a un discours très simple, très simpliste, rejetant tout le monde, la vie politique, la classe politique, ça a passé à défaut, et pas par carence. Et c'est pour ça qu'il a été élu, et qu'en plus, surtout, que son principal opposant était en prison.
Et intéressant, parce qu'effectivement, dans tout ce que vous dites, on entend les comparaisons qu'on a pu faire avec et les remarques qu'on a pu faire au sujet de Donald Trump lorsqu'il a été élu. La seule différence, c'est que Trump a une économie derrière lui, et ça fait passer beaucoup de choses. Jair Bolsonaro ne l'a plus, l'économie derrière lui, désormais.
Il ne l'a plus, on est en début de récession économique, qui a le chômage qui a effectivement augmenté, il y a quand même 30 millions qui sont exclus du réseau, du système économique social traditionnel, qu'il y a de plus en plus de coupes, effectivement, à l'éducation supérieure, dans la culture, dans l'éducation, et puis ces actions aussi très, très marquantes en Amazonie. La situation économique n'est pas florissante, pas du tout, et donc les milieux économiques et financiers étaient au début très favorables à sa politique. Mais vous savez que les Brésiliens sont très pragmatiques, surtout les hommes d'affaires. Tant qu'il est là et qu'ils servent leurs intérêts, c'est bien. Le jour où, effectivement, leurs propres intérêts seront mis en cause, eh bien, ça sera terminé.
Et à ce moment-là,
il n'y aura pas d'état d'âme. Et ils trouveront quelqu'un d'autre. Et au terme de la Constitution, ça sera le vice-président, le général Mourão. Il est lui-même un ancien de l'armée, qui pourrait prendre la suite. Et à la limite, je dirais qu'ils sont plus, lui, au moins, il est plus intelligent. Il a au moins une vision cohérente dans le pire des scénarios.
Comme vous dites, on n'en est pas encore là. Ce sera l'occasion de nous revoir, Stéphane Witowski. Merci beaucoup. Je rappelle quand même que les prochains rendez-vous demain, donc grève générale au Brésil, il faudra suivre ça avec beaucoup d'attention. Et puis, le 25 juin, est-ce que oui ou non, les juges décideront de la remise en liberté de Lula? On suivra ça évidemment avec beaucoup d'intérêt aussi. Merci mille fois.
Merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe au Burkina Faso, qui se retrouve débordé par des poussées djihadistes et doit s'en remettre à des milices citoyennes. C'est ce que nous racontera Claude Guibal sous les radars, et Amélie Perrier qui a peur de manquer de chocolat. L'Europe, celle qu'on aime ou qu'on quitte, avec Pierre Benazé ce soir, et l'alliance entre Marine Le Pen et Matteo Salvini. Le Monde à l'envers et Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Dans le détroit d'Ormuz, Jean-Marc qui monopolise évidemment toute l'attention ce soir, gare à l'accrochage qui peut déclencher des choses plus graves.
Oui, attention, ni d'espions, double jeu, triple jeu, il y a dans le golf un vrai risque de guerre par effet d'engrenage, voire oui, par accident.
Allez, à tout de suite, ne bougez pas, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par la Californie. Anderson Park, King James, c'est dans la playlist de France Inter.
This cold stairs can never put the fear in me. What we built here is godly. They can't gentrify the heart of kings. Let's just not talk about it. If I make a move, you're coming with me.
What about the love? Coming with me. What about the neighbors? Coming with me. What about the sea? It's coming with me. The people that you came with, coming with me. What about the love?
Stay down.
Let's go shake down
until we get what we need. Oh yeah.
play for keeps. And we salute King James for using his chains to create some equal opportunities. Cold stairs can never put the fear in me. There's a movement we've been grooving on. You can move or stay your ass asleep. Let's just not talk about it.
Anderson Paak, King James sur France Inter, c'est que pour vous faire plaisir, Amélie Perrier.
Ça me fait plaisir.
Et vous ne le méritez pas.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sur les radars, Amélie, ils ont subi la guerre, la fuite, les camps de réfugiés.
Et le calvaire ne s'arrête pas là pour des dizaines de milliers de Syriens installés au Liban voisin. Aujourd'hui, ils sont obligés de détruire eux-mêmes leurs abris de fortune, des maisonnettes construites en dur avec quelques parpaings et des tôles ondulées. Dans les montagnes d'Arsal, une région aride et pauvre à la frontière de la Syrie, ils rasent leur foyer de réfugiés sur ordre des autorités libanaises. Beyrouth craint en effet que les réfugiés ne s'installent de manière permanente. Alors le gouvernement n'autorise désormais que le bois et les bâches en plastique dans les camps de réfugiés. Oum Wadié est une réfugiée syrienne interrogée par l'AFP. Et voilà, elle nous dit, ça fait deux jours qu'on a détruit notre maison. Hier, on a dormi dans la rue, j'ai fait à manger à mes enfants dans la rue, on a dû demander de l'eau aux voisins. Hier, tous n'avaient pas détruit leur logement, mais aujourd'hui, tout le monde s'y met. On n'a pas assez d'argent pour louer une maison. Voilà ce que nous dit Oum Wadié, une réfugiée syrienne. Le Liban essaie de décourager en fait les réfugiés syriens de s'installer durablement dans le pays, submergé. Le Liban, c'est 4 millions d'habitants et entre 1,5 million et 2 millions de Syriens chassés par la guerre. Et pour beaucoup de politiques et de Libanais, il est temps pour eux de repartir dans leur pays. Mais ces réfugiés n'ont plus rien. Leurs villes, leurs maisons, leurs usines ont été rasées dans les combats et les bombardements depuis plus de 8 ans. Les ONG regrettent aujourd'hui la dernière loi du gouvernement libanais. Elles vont fournir des matériaux et des aides pour de nouvelles tentes.
Une manifestation des défenseurs de l'environnement, ça se passe au Kenya.
Ils étaient environ 200 hier à Nairobi pour protester contre le projet de la première centrale au charbon de toute l'Afrique de l'Est. Le site choisi se trouve tout près de l'archipel de Lamu, dans l'Est du Kenya. Une destination touristique avec une vie marine très riche. Le site est inscrit au patrimoine mondial. Cela fait 6 ans que le projet existe. Le gouvernement y voit des créations d'emplois, une source d'énergie pour le futur. Mais depuis 6 ans, les anti-charbons manifestent, soutenus par de grandes ONG comme Greenpeace. Leur slogan, Decolonize, c'est un jeu de mots, un call, c'est le charbon en anglais, Decolonize, un collectif dont Omar Elmao dirige la campagne.
C'est environ 1 million de dollars de dépenses quotidiennes pour une centrale électrique dont on n'a pas besoin, sans compter son impact sur l'environnement et la pollution qui va suivre.
Voilà, un militant traduit par nos confrères d'Africa News, Decolonize. C'est un jeu de mots à double titre, car derrière cette centrale, des financements chinois, la construction réalisée par une société chinoise, on y trouve aussi quelques fonds d'Omane. Un groupe d'experts vient de rendre un rapport intitulé « Le mauvais choix pour le Kenya », car le contrat signé avec tous ces investisseurs va coûter une fortune au pays. Les besoins en énergie du pays seront moins importants que prévu au départ. La centrale sera donc sous-utilisée. Le Tribunal national pour l'environnement doit rendre son jugement sur le futur de cette centrale au charbon dans une dizaine de jours, le 24 juin.
Allez, Amélie, si l'on devait se priver de chocolat?
Imaginez l'enfer, Fabienne. Eh bien, la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux, viennent d'annoncer l'arrêt de leur vente. Yves Brahima Kone, le directeur général de la filière en Côte d'Ivoire, explique le pourquoi de cette décision historique en conférence de presse.
Face aux enjeux environnementaux et sociaux, notre responsabilité est aussi d'adresser la problématique du maintien de l'intérêt des producteurs pour la culture du cacao. Vous conviendrez avec nous que celle-ci est étroitement liée à un revenu décent du producteur.
Voilà, le Ghana et la Côte d'Ivoire ne veulent plus vendre leur cacao en dessous de 2 600 $ la tonne. Conséquence sur les marchés, le prix du cacao, eh bien, s'est envolé à Wall Street, mais c'est une hausse très temporaire, prédisent les analystes qui précisent que pour l'instant, il y a assez de cacao pour répondre à la demande. Le marché mondial du chocolat, c'est un peu vous et moi, Fabienne, c'est environ 100 milliards de dollars par an. Et sur ces 100 milliards de dollars, eh bien, seuls 6 milliards reviennent aux agriculteurs. Ils réclament donc aujourd'hui un juste prix pour leurs fèves. En Côte d'Ivoire comme au Ghana, le cacao représente environ 10% du PIB. De nouvelles négociations doivent se tenir dans les semaines à venir. J'espère quand même qu'on va trouver une solution.
Vous savez, moi, j'aime pas le chocolat. Enfin,
ouais, je sais, vous aimez que la vanille.
Très particulière. Ouais, enfin, ouais, non, mais il faut pas m'embêter avec ça. Allez, revenez quand même demain.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Mekka. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul,
Washington,
São Paulo.
Beyrouth, France Inter.
C'est au Burkina Faso que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, et c'est grâce à vous, Claude Guibalquian. Revenez, bonsoir Claude.
Bonsoir.
Le Burkina qui fait face à une montée de djihadisme qui semble de moins en moins contrôlable. Claude, on se souvient que c'est là que le mois dernier, les forces spéciales françaises sont allées délivrer les deux touristes français qui avaient été enlevés au Bénin. On l'a vu encore aussi cette semaine avec cette attaque contre un village dans le nord du pays. Il y a eu 15 morts. Et face à ce danger qui s'amplifie, les forces de sécurité burkinabées sont démunies et dans des zones reculées. Elles ont délégué la justice, la police, à des milices d'autodéfense citoyenne.
Oui, Claude. Absolument Fabienne. C'est à leur rencontre d'ailleurs que je vous propose de partir ce soir. Et on part ensemble dans la campagne autour de Ouagadougou. Venez. On y retrouve ces hommes assis devant une maisonnette de briques. Sur leurs genoux, des gourdins, des lance-pierres, des cordes, de vieilles pétoires qu'ils ont calées entre leurs pieds chaussés de sandales en plastique. Ces hommes, ils portent le costume traditionnel des Dozo, une confrérie de chasseurs que l'on retrouve dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et dans leur petit village, ce sont eux qui assurent la sécurité.
Nous sommes tous inquiets car les gens qui sont tués dans les attaques, ce sont nos parents, notre famille, nos cousins. Ce que nous pouvons faire, nous, pour aider, c'est fournir du renseignement, vérifier s'il n'y a pas de mauvaises graines qui pénètrent dans le village. Dans ce cas-là, on a les moyens de contacter les autorités et de leur transmettre ces informations. Ils viennent et ensemble, on fait en sorte de mettre hors de nuire ces gens qui cherchent à déstabiliser le village.
Ces groupes d'autodéfense, ils ont pris de l'ampleur dans le chaos qui s'est installé après la chute du président Blaise Compaoré en 2014, avec les attaques qui ont commencé dans la foulée. Ils se sont placés en supplétif des forces de sécurité dans les zones reculées.
C'est un phénomène difficile, on n'avait jamais connu ça. Le Burkina Faso, c'est vraiment un pays de paix et d'harmonie. Vous savez, tous ceux qui sont là ont perdu des fils ou des frères dans cette bataille. Si on s'est constitué en groupe d'autodéfense, ce n'est pas arrivé comme ça. C'est cette insécurité qui nous a poussés à nous organiser. Et c'est notre façon de contribuer à la lutte contre le terrorisme.
Le problème, c'est que ces groupes d'autodéfense, dans certains endroits, sont devenus un état dans l'état. Et cela, ça inquiète Daouda Diallo, porte-parole du collectif de lutte contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.
Après Blaise Compaoré, avec la fragilisation de l'État, la défiance de l'autorité de plus en plus amplifiée, du coup, il y a une ascension de la justice privée. Voilà, les citoyens lambda ne font plus recours à la justice pour se faire entendre. Beaucoup recourent à la justice privée pour se rendre justice soi-même. Tout ça, c'est une grande menace pour le vivre ensemble et pour les rapports communautaires.
À chacun son territoire. Ici, les Dozo, mais dans cet autre village, en montant plus vers le nord, c'est une autre milice qui règne. C'est la plus puissante du Burkina Faso, les Kogloéogo, littéralement les gardiens de la brousse. Alors il faut s'imaginer sous un manguier une quarantaine d'hommes au visage fermé et dur, assis en cercle. On est placé au milieu, scruté, les identités vérifiées. On reste silencieux jusqu'à ce que le chef autorise à parler. Derrière eux, il y a ce hangar, il est rempli d'objets récupérés au cours de raids punitifs.
Ah, ça, c'est des motos volées. On a récupéré ça des mains des bandits.
Ah, il y en a beaucoup là, hein, quand même. Et puis un peu plus loin, il y a encore cette arme auquel sont enchaînés sous un soleil de plomb une dizaine d'hommes aux membres tuméfiés, des voleurs.
C'est des gens qui ont fait quoi ?
Ils ont volé des plaques solaires, d'autres c'est des motos, d'autres c'est des portables. Bon, toutes sortes de choses à son voleur.
Les Kogloéogo sont reconnus par l'État burkinabé. Le chef est fier, dans la main, il nous montre ce carnet dans lequel il a noté le numéro de châssis, la plaque d'immatriculation d'un véhicule signalé comme transportant des djihadistes et qu'on l'invite à retrouver. Chrysogon Zoukmouré est le président du MBDHP, le mouvement burkinabé pour les droits de l'homme et des peuples.
Ce sont des initiatives qui partent des villages du fait de l'absence de l'État, j'allais même dire de la démission de l'État, à assumer son rôle régalien de la protection des personnes et des biens. De plus en plus, une partie de la population estime que ces corps locaux pourraient être un palliatif qui peut accompagner les forces de défense et de sécurité dans la sécurisation des villes et des campagnes. C'est vrai qu'il y a des dérives, il y a beaucoup de dérives. Il y a des arrestations arbitraires, il y a des sévices corporels qui sont infligés à des personnes soupçonnées. Il y a lieu quand même de recadrer un peu leurs méthodes et de pouvoir peut-être les intégrer dans le schéma de lutte contre le phénomène terroriste que nous vivons aujourd'hui.
Car vous l'avez bien compris, hein, Fabienne, c'est bien là qu'il est le problème, parce que vraiment à chaque attaque djihadiste, eh bien les représailles des Kogleogos ne tardent pas. Mais ces représailles, elles s'exercent principalement envers une communauté, les Peuls, ce peuple d'éleveurs nomades, majoritairement musulmans, vous savez, hein, ils sont présents dans toute l'Afrique de l'Ouest, où ils sont détestés, ces Peuls, par les agriculteurs majoritaires qui les accusent de détruire les terres et les récoltes au passage de leur bétail.
Et chacune de ces opérations de représailles déclenche à son tour un nouveau cycle de violence. On n'arrête pas.
Ouais, c'est exactement ce qui se passe au Burkina Faso. C'est aussi ce qui se passe en Mali. Hein, on l'a vu cette semaine avec cette terrible attaque d'un village d'Ogon. Et donc, au Burkina Faso, eh bien, ces Peuls, ils sont détestés par ces milices, hein, par les Kogleogos, qui sont des cultivateurs et qui les considèrent comme un vivier de terroristes en puissance. Cela s'est renforcé par l'appel lancé au djihad des Peuls par le prédicateur Amadou Koufa. Lui, c'est le chef de la Katiba du Massina, un des principaux groupes djihadistes de l'Ouest africain. Et ce qu'il cherche, hein, Amadou Koufa, c'est à faire basculer les Peuls dans le djihad en exploitant leur ressentiment contre les États centraux, pardon, et bien sûr en exploitant ce rejet des gens à leur égard.
Et une stratégie qui est quoi, très efficace, Claude,
ou... Une stratégie qui est même redoutable, hein, Fabienne, puisqu'elle cherche à pousser les communautés à se déchirer, à rendre les États ingouvernables, ce qui donc permettrait aux djihadistes d'en prendre le contrôle.
Claude Guibal, de retour du Burkina Faso, merci beaucoup. Claude, vous revenez évidemment quand vous voulez dans Un jour dans le monde.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Géniale.
Le jeudi, c'est l'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte, depuis Bruxelles avec Pierre Benazet. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Fabienne.
Pierre, depuis que les résultats des élections européennes sont tombés, on en a beaucoup parlé ici dans Un jour dans le monde, on est dans une grosse phase de tractation pour les présidences de groupe. On y viendra d'ailleurs, tiens, tout à l'heure dans le 19h avec Nathalie Loiseau, mais pas seulement, il y a les conseils et autres commissions, etc. Bref, grande manœuvre pour constituer aussi les groupes politiques.
Oui, on se bat pour constituer des groupes parce qu'il faut avoir au moins 25 députés venant d'au moins 7 pays, un quart de l'Union européenne. Pour certains, c'est plus facile. Par exemple, ceux qui restent inamovibles depuis 40 ans, les socialistes, SED ou les conservateurs, le Parti populaire européen. Pour d'autres, c'est plus consensuel, comme chez les Verts. Mais là où c'est plus compliqué, c'est chez les libéraux qui ont changé de nom hier pour plaire à leur nouveau parti membre, La République en marche, mais qui ont toujours pas élu leur président. On sait juste que ce sera pas Nathalie Loiseau. Finalement, ils ont été coiffés au poteau, les libéraux, par Marine Le Pen et Matteo Salvini, puisque leur nouveau groupe à eux, il a été porté sur les fonds baptismaux ce matin. Il s'appelle Identité et Démocratie.
Alors, Marine Le Pen a donc peut-être été plus rapide que les libéraux, Pierre, mais son groupe est d'une taille inférieure et elle n'a pas vraiment choisi son pari finalement de créer un grand super groupe des partis nationaux.
Effectivement, alors selon les propres calculs de Marine Le Pen, il y aura dans le nouvel hémicycle ce qu'elle appelle un bloc souverainiste de 200 députés. Le nouveau groupe Identité Démocratie serait loin du compte, du coup, avec ses 73 députés. Le président de ce nouveau groupe, Marco Zani, qui est membre de la Lega italienne, reconnaît qu'il y a eu des pourparlers avec différentes formations compatibles avec la charte politique d'Identité et Démocratie. Il y a eu par exemple des discussions non couronnées de succès avec les Espagnols de Vox. Le nouveau groupe n'exclut pas de continuer à parler avec eux, comme avec d'autres. La porte reste ouverte pour rejoindre le groupe, affirment les 9 partis qui en sont membres depuis ce matin. Marine Le Pen souligne par ailleurs que certains partis proches des idées d'Identité et Démocratie auraient pu être tentés, mais que certains ont préféré garder la direction d'un groupe existant, comme par exemple les Polonais du PIS, le Parti Droit et Justice. La chef du Rassemblement National n'a pas compté le FIDES de Viktor Orban dans les 200, mais elle estime que ce parti pourrait se retrouver rapidement en désaccord avec ses alliés conservateurs au PPE.
Voilà, pour l'instant en tout cas il y est au PPE. Il faut quand même bien signaler également, Pierre, malgré tout, que ce mouvement est en véritable progression au Parlement européen. Ce groupe Identité et Démocratie, c'est le double quand même du groupe précédent.
Oui, le groupe précédent c'était Europe des Nations et des Libertés, le 8e du Parlement en taille avec 36 députés à la fin. Hein. Le nouveau groupe Identité et Démocratie, ils sont en quatrième position ex aequo avec les Verts, avec 73 députés. Et ça pourrait même monter à 76 si jamais le Brexit se produit un jour. Il faut noter aussi que cette fois-ci, plus que lors de la dernière législature, ça s'est fait rapidement. La dernière fois, il avait fallu un an à Marine Le Pen et à son allié néerlandais Geert Wilders pour parvenir à constituer un groupe. Le Rassemblement National et la Lega Italienne, c'est les deux poids lourds de ce nouveau groupe qui conservent les alliés historiques comme la FPE en Autriche ou les Flamands du Flams Belang. Il y a aussi de nouveaux alliés, les vrais Finlandais, qui ont choisi de quitter le groupe des conservateurs réformistes. Surtout, Marine Le Pen estime que l'arrivée des Allemands d'Alternative für Deutschland et des Danois du Dansk Folkeparti, ça prouve la forte attraction du nouveau groupe.
Et on assiste aussi, ce sera la dernière question, Pierre, à Bruxelles, à une autre autosatisfaction, on va dire, c'est celle des autorités européennes qui sont chargées du numérique pour le premier anniversaire du RGPD, Règlement Général pour la Protection des Données.
Oui, ils sont tous très contents, comme par exemple les commissaires européens chargés du numérique, après la publication d'un sondage selon lequel 73% des Européens interrogés ont entendu parler d'au moins un de leurs droits, comme l'accès à leurs propres données. Mmh. On va dire que c'est pas dommage, après avoir eu pendant des mois des boîtes de réception encombrées de courriels demandant qu'on accepte que les données soient utilisées.
Oui, et sans vraiment les lire d'ailleurs de vous à moi, dans la plupart des cas. Merci beaucoup, Pierre Benazé, en direct de Bruxelles.
Bonsoir.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, une nouvelle fois, deux pétroliers ont été attaqués donc ce matin dans le détroit d'Ormuz. C'est à l'entrée du golfe Persique. On y reviendra évidemment longuement aussi dans le journal de 19h dans un instant. L'origine des attaques est inconnue, mais la tension ne cesse de croître dans la région, à tel point que certains craignent un affrontement direct et assumé entre l'Iran et les États-Unis. Mais vous vous dites que cette hypothèse est improbable. En revanche, une guerre par accident, on y met des guillemets, est très possible.
Alors, une fois n'est pas coutume, on va prendre les affirmations des leaders politiques pour argent comptant. L'Américain Trump, comme l'Iranien Rouhani, disent la même chose, ils ne veulent pas la guerre. Il y a 3 semaines, le patron de la Maison-Blanche a même proposé une négociation directe à Téhéran. On est en droit de le croire. Vous allez me dire que des deux côtés, il y a des pouces au crime. C'est vrai, côté iranien, les gardiens de la révolution n'ont aucune envie de discuter avec Washington, donc il est très possible qu'ils soient à l'origine de ces attaques répétées contre des supertankers, une sorte d'avertissement dans le bras de fer sur l'embargo commercial et sur le nucléaire. Côté américain, ce n'est pas mieux. Le conseiller à la sécurité de Trump, John Bolton, veut en découdre avec l'Iran, comme en son temps Donald Rumsfeld pour pousser George Bush à la guerre en Irak. Il est donc possible aussi que des agents américains craquent des allumettes, passez-moi l'expression, dans la région. Là encore, il y a un précédent. Les faux documents sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, on s'en souvient. Tout cela est vrai, mais Donald Trump semble sincère dans sa volonté de désengager les États-Unis des terrains de conflit. Et l'Iran, de son côté, n'a aucun intérêt à un affrontement direct qui finirait en fait d'achever son économie. Donc oui, il y a des bruits de bottes, mais il s'agit davantage de montrer ses muscles que de les utiliser. Donc un affrontement direct est voulu, ça paraît improbable.
Donc vous voulez dire qu'à l'inverse, l'affrontement indirect et non voulu est lui possible?
C'est à peu près ça. D'abord parce qu'il y a d'autres acteurs dans le golfe Persique et certains peuvent vouloir déclencher un engrenage de représailles en série. C'est pour ça que ces attaques contre les tankers peuvent être le fait de plein de gens dans cette partie du monde. On est un peu comme dans un roman de John le Carré. Attention, nid d'espions, faux semblants, double jeu à tous les coins de rue. Il y a d'abord les ennemis de l'Iran, les Émirats et plus encore l'Arabie Saoudite qui veut conserver le leadership régional. Les Saoudiens ne s'en cachent pas, ils aimeraient bien voir Washington procéder à des frappes en Iran. Ensuite, il y a Israël qui voit l'Iran, non sans raison, comme une menace pour sa propre existence. Et il ne faut jamais sous-estimer les services secrets israéliens. Si on regarde un peu plus loin, d'autres peuvent aussi avoir un intérêt à créer de l'instabilité dans la région. La Chine, en pleine guerre commerciale avec les États-Unis, même si Pékin aurait quand même beaucoup à perdre à une flambée des cours du pétrole que déclencherait inévitablement un conflit dans le Golfe. Et surtout la Russie, on voit bien qu'elle a tiré les marrons du feu après le chaos en Syrie. Répétons-le, dans cette partie du monde, tout est possible, surtout les coups tordus. Et ça ne serait pas la première fois dans l'histoire qu'une guerre se déclencherait par un effet d'engrenage. On pense évidemment à la Première Guerre mondiale après l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo en 1914.
Voilà, c'est ce que vous appelez la guerre par accident.
Pas tout à fait. La guerre par accident, c'est encore une autre hypothèse. Et ça, c'est possible, dit un diplomate iranien, et c'est la crainte de nombreux experts de la région. De quoi s'agit-il? Pour comprendre, il faut rappeler ce qu'est le détroit d'Ormuz. C'est un peu le carrefour embouteillé d'une grande ville à l'heure de pointe. D'un côté du détroit, les pays arabes et la flotte américaine, de l'autre, l'Iran. En son point le plus étroit, seulement 30 km de largeur. On voit la côte en face. C'est un goulet d'étranglement qui est truffé de mines. 7 pétroliers en moyenne chaque jour qui traversent sur une bande de navigation de 2 km de large seulement. Et surtout des navires américains qui passent à quelques centaines de mètres des vedettes rapides iraniennes. Alors ils ont l'habitude, hein, ils se parlent en fait pour éviter de se retrouver nez à nez, mais tout ça n'est absolument absolument pas codifié officiellement. Vous me suivez? C'est comme dans le carrefour embouteillé. Un accident est vite arrivé. Et dans le contexte, avec des esprits échauffés, des forces extérieures prêtes à souffler sur les braises, un peu de tôle froissée, ça peut tout de suite conduire très loin. D'autant plus qu'il n'y a pas de canal de communication directe, et ça c'est grave, entre Washington et Téhéran. Et c'est ce type de canal qui sert précisément à arrêter tout de suite l'engrenage des ripostes. Donc la guerre par accident, oui, c'est le risque aujourd'hui dans le Golfe.
Jean-Marc Fouret, Le Monde à l'envers, tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Comme tous les soirs, on reste ensemble pour Le Téléphone sonne. Et puis le journal de Sébastien Pahou. Restez avec nous, ne changez rien.